Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Emmanuel Macron a salué hier soir un homme d'État que nous aimions autant qu'il nous aimait. Hommage à l'ancien président Jacques Chirac, mort hier à 86 ans. Une journée de deuil national a été décrétée lundi. Nous entendrons un extrait de l'allocution de l'actuel chef de l'État.
Emmanuel Macron qui divise les Français sur la réforme des retraites comme Jacques Chirac. 25 ans avant lui, Annabelle Grelier reviendra sur ce chantier mené lors de son premier mandat. C'était en 1995.
Et on ira à Bagdad où les Irakiens se souviennent de l'opposition de l'ancien président français à la guerre dans le pays. La question du jour, Guillaume.
Eh bien, l'incendie à Rouen, comment sécuriser les sites industriels classés Seveso? On posera la question à Annie Thébaumoni, sociologue de la santé, directrice de recherche honoraire à l'INSERM.
Il y avait foule cette nuit à l'Élysée. Le vestibule a été ouvert au public pour qui voulait rendre hommage à Jacques Chirac. Des centaines de mots ont déjà été rédigés dans des livres d'or mis à disposition jusqu'à dimanche. C'est depuis le palais présidentiel qu'une heure avant, l'actuel chef de l'État Emmanuel Macron a prononcé son allocution télévisée, un hommage à celui qui occupait sa fonction de 95 à 2007 et mort hier à 86 ans.
Jacques Chirac était un grand Français, libre. Épris de notre terre, pétri de notre histoire et amoureux taiseux de notre culture. Lui qui attirait la sympathie de l'agriculteur et du capitaine d'industrie, lui qui prenait le temps d'échanger longuement avec l'ouvrier d'usine comme avec les plus grands artistes, aimait profondément les gens. Dans toute leur diversité, quelles que soient leurs convictions, leurs professions, leurs conditions, il aimait les Français. Les plus humbles, les plus fragiles, les plus faibles furent sa grande cause. Pour Jacques Chirac, nulle hiérarchie entre les parcours, entre les histoires, simplement des femmes et des hommes, des vies, qui toutes méritent une attention égale. Jacques Chirac était un destin français.
Emmanuel Macron, qui s'est ensuite rendu au domicile de Jacques Chirac pour se recueillir. Une journée de deuil national aura lieu lundi. Un service solennel sera rendu ce jour-là à midi en l'église parisienne Saint-Sulpice. Jacques Chirac, figure majeure de la politique française du XXe siècle, était déjà très connu des Français quand il a accédé à la présidence de la République, élu après une campagne axée sur la réduction de la fracture sociale. Dès la première année de son mandat, en 95 donc, l'ancien maire de Paris et député de Corrèze, a mis en place une politique d'austérité via la réforme de la sécurité sociale et des retraites. Elle fera descendre 1,5 million de Français dans la rue, une mobilisation qui résonne avec celle de ces derniers jours contre la réforme des retraites voulue cette fois par Emmanuel Macron. Annabelle Grelier.
La fracture sociale, Jacques Chirac avait su en parler.
C'est vrai qu'il y a deux France, et c'est vrai que fracture ou faille, ça s'écarte. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui sont sur le bord de la route et qu'on est obligé d'assister. Et que l'autre France est de plus en plus taxée pour permettre d'aider les premiers. C'est un système diabolique.
Mais c'est au déficit que Jacques Chirac va finalement s'attaquer. Novembre 95, le plan Juppé est lancé et mauvaise surprise pour les Français, ce plan prévoit toute une série de hausses de cotisations, de prélèvements sociaux, la fameuse CRDS, une baisse des remboursements de médicaments, mais aussi des allocations familiales assujetties à l'impôt ou encore l'allongement de cotisations pour les fonctionnaires et la suppression des régimes spéciaux de retraite. Les fonctionnaires seront d'ailleurs les premiers à descendre dans la rue, les écoles, les transports, dès la fin novembre, plus rien ne fonctionne. Droit dans ses bottes, le Premier ministre Alain Juppé maintient.
L'addition des corporatismes et des égoïsmes qui existent et qui se manifesteront, je le sais, ne saurait arrêter notre élan.
5 semaines de grève vont peu à peu paralyser tout le pays. Les Français s'organisent, découvrent le covoiturage, le mouvement est populaire. Et le 12 décembre, ce sont plus d'1,5 million de Français qui battront le pavé. Un record de mobilisation qui fera reculer le gouvernement. On commence alors à parler de mondialisation et de politique néolibérale. 25 ans plus tard, c'est un ancien ministre chiracien qu'Emmanuel Macron a choisi pour mener sa réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye, ministre de la fonction publique sous Chirac, devenu haut-commissaire sous Macron.
L'héritage de Jacques Chirac, c'est un bilan politique d'abord, mais aussi une personnalité, une voix familière que même les plus jeunes ont en tête. Beaucoup de petites phrases de l'ancien président ont marqué les esprits. Certaines ont provoqué un tollé, comme le bruit et l'odeur évoqués à propos des immigrés. D'autres ont fait plutôt sourire. Exemple, le 21 septembre 2000, quand il fait un néologisme. L'homme d'État était interrogé sur France 3 par Élise Lucet à propos de l'affaire du financement occulte du parti de droite de l'époque, le RP.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. On fait parler un homme mort il y a plus d'un an. On disserte sur des faits invraisemblables qui ont eu lieu il y a plus de 14 ans. Voilà pourquoi je demande que ces éléments soient transmis à la justice, afin que la vérité balaye la calomnie.
La justice, Jacques Chirac, y a été confronté, condamné en 2011 à 2 ans d'emprisonnement avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris. Un ex-président condamné, c'était une première et cela a marqué un tournant dans les affaires politico-judiciaires selon Jérôme Carsenti, avocat de l'association Anticor qui s'était constituée partie civile dans ce dossier.
C'est vrai que ce procès est un tournant historique puisque c'était la première fois qu'un ancien président de la République allait comparaître, mais que pour la première fois aussi, la société civile entrait dans le prétoire. On a, avec ce procès, touché le sacré. C'est-à-dire que pour la première fois, on osait faire ce que la justice française n'avait jamais osé par le passé, c'est-à-dire juger ce qui représente le summum du pouvoir en France, le président ou l'ancien président de la République. Il y a eu des résistances importantes à cette époque-là. Jean-Claude Marin s'était opposé à ce procès avec des ordonnances et des réquisitions fin de non-lieu. Au procès même, les procureurs de la République avaient requis la relaxe. La mairie de Paris, qui devait être présente, n'était pas présente. Des personnalités éminentes, comme même Robert Badinter, avaient dit « mais laissez-le tranquille, ça va bien ». C'est-à-dire qu'il y avait cette idée que, quelles que soient finalement les malversations qui avaient été commises, c'était un grand homme et qu'on ne pouvait pas aller toucher sa personne ni même le faire juger. Et finalement, la présence d'Anticor a fait ce contradictoire qu'on attendait tous et a permis effectivement de faire exister cette société civile et de la faire exister pleinement pour la suite des autres affaires. Et on voit bien que dans la foulée, on a eu bien sûr quelques affaires, les sondages de l'Élysée et surtout derrière, la création du parquet national financier en 2013, qui a marqué effectivement un tournant historique dans le traitement des affaires politico-judiciaires.
Jérôme Carsenti, avocat de l'association Anticor contre la corruption et pour l'éthique en politique. Parmi les moments décisifs de la carrière de Jacques Chirac, on peut citer son opposition à la guerre en Irak. En 2003, alors que la plupart des grandes puissances occidentales soutiennent les États-Unis et la Grande-Bretagne, il est le seul chef d'État européen mobilisé contre une intervention militaire. Les Irakiens ne l'ont pas oublié. Reportage de Lucille Wasserman à Bagdad.
Un homme honorable, un visionnaire, un humaniste. Dans les rues de Bagdad, les mots utilisés par les Irakiens lorsqu'ils se souviennent de Jacques Chirac sont forts. Et pour cause, dans la mémoire d'une grande partie de la population ici, il est surtout le président français qui, en 2003, a tenu tête aux États-Unis et a dit non à la guerre en Irak.
Oui, je me souviens en 2003. Toujours, à chaque occasion, il disait non à la guerre en Irak. À cette période, je ne l'aimais pas, car personnellement, je voulais la guerre. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup à penser que c'était la seule personne qui avait en fait compris cette guerre.
Ces Irakiens se souviennent aussi du discours historique de son ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Un réquisitoire contre la guerre en Irak et un avertissement aux lourdes conséquences que celle-ci engendrerait.
Jacques Chirac était déterminé à ne pas prendre part à la guerre en Irak et l'histoire lui a donné raison. La guerre en Irak a créé le chaos et la destruction du pays.
Un choix politique courageux que ces Irakiens gardent en mémoire et qui lui a même valu ici le surnom de l'ami des Arabes.
Jacques Chirac était un homme d'État audacieux et talentueux qui n'a jamais varié dans sa défense des intérêts français ou sa recherche d'une Europe forte. Hommage de l'ancien président américain Bill Clinton et de son épouse Hillary, ex-candidate face à Donald Trump.
Vous écoutez les Matins de France Culture, il est 7h09, c'est la suite du journal de Margot Delpierre et l'actualité Margot, c'est aussi ce scandale qui enfle à Washington sur un appel entre les présidents américains et ukrainiens.
Le lanceur d'alerte dans l'affaire Trump-Zelensky pourrait être un employé de la CIA pendant un temps détaché à la Maison-Blanche. C'est ce que croit à savoir le journal Le New York Times. Le président américain Donald Trump a eu une conversation téléphonique avec son homologue ukrainien dans laquelle il lui demandait d'enquêter sur le fils de son rival politique Joe Biden. Mais il réfute avoir fait pression sur Zelensky. Les démocrates accusent la Maison-Blanche d'avoir voulu étouffer l'affaire. En France maintenant, à Rouen, le foyer principal de l'incendie dans l'usine Lubrizol est désormais éteint. Mais par précaution, les crèches, les établissements scolaires et les EHPAD resteront fermés aujourd'hui. Il existe des risques d'odeur après l'extinction du feu, selon la préfecture. Lubrizol fabrique des additifs pour lubrifiants. Des équipes spécialisées en risque industriel sont toujours mobilisées car il faut le préciser, il s'agit d'un site classé Seveso et cela implique des mesures de sécurité particulières, Tara Schlegel.
Avec Seveso, les exploitants sont obligés d'abord d'évaluer les risques en général et d'avoir rédigé deux plans, un plan d'opération interne si l'incident se déclenche à l'intérieur de l'usine et ne dépasse pas le périmètre de sécurité et un PPI, un plan particulier d'intervention si jamais l'incident risque de toucher les riverains. Ce PPI est agréé par la préfecture. Elle sait donc théoriquement comment protéger la population. Ça va du confinement efficace jusqu'à un certain point à l'évacuation quand elle est possible en cas de grand danger. Il y a en France, environ 1200 sites Seveso. Plus de la moitié, 656 précisément, sont classés au seuil, c'est-à-dire que leur seuil de dangerosité est supérieur. C'est le cas à Rouen. Cette prise de conscience qu'il faut travailler en amont sur une catastrophe est relativement récente. La réglementation européenne date de 1982, revue deux fois depuis. À l'époque, il s'était agi en 1976 en Italie d'une fuite de dioxine. Elle avait eu lieu le 10 juillet. Le 12, deux jours après, les ouvriers revenaient travailler. L'usine a été fermée le 18 juillet et la population italienne évacuée seulement le 23 juillet 76, presque deux semaines après. Pour éviter ce type de mise en danger, l'Europe a décidé alors d'un mécanisme commun de prévention et d'information des riverains, mécanisme justement en œuvre à Rouen.
À Rouen, justement, en attendant les résultats d'analyse complémentaire, la préfecture recommande aux agriculteurs à proximité de l'usine de rentrer les animaux qui seraient à l'extérieur et de ne pas récolter leur production pour le moment. Un an de prison avec sursis requis hier soir contre l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, celui qui était ministre sous François Hollande et jugé cette semaine devant la Cour de justice de la République pour violation du secret professionnel, poursuivi pour avoir transmis des éléments au député Thierry Soler concernant une enquête pour fraude fiscale qui le visait. Le temps aujourd'hui, c'est plutôt maussade. Comme hier, cet après-midi, les températures seront de 17 degrés à Brest, 18 à Lille et Strasbourg, 20 degrés à Bordeaux et Paris et 26 à Marseille, Guillaume.
Merci Margot Delpierre.